Radio Okapi.
L'édition de nos informations vespérales, c'est avec Pascal Masirika.
À la une de l'actualité, 10 personnes tuées, bilan des embuscades tendues hier samedi après-midi par des présumés miliciens de la Codeco dans deux chefferies du territoire de Djougouan-Itouri. 3 soldats des FARDC auraient péri lors de leur intervention. Le ministre de l'EPST appelle les élèves à des réussites honnêtes et méritées pour mettre fin aux pratiques dégradantes et honteuses qui ont terni, selon lui, l'image de ce secteur. Appel lancé par Tony Mouaba ce dimanche à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Notre invité, c'est le président de l'Association culturelle pour le développement qui regroupe 21 communautés d'Itouri. Janvier Bin Ekwale parle de la mission d'inspection qu'il vient d'effectuer sur la crise humanitaire et sécuritaire dans le territoire de Mambasa. Madame, messieurs, bonsoir. 10 personnes ont perdu la vie hier samedi après-midi lors des embuscades tendues par de présumés miliciens de la Codeco dans le territoire de Djougou. La plupart des victimes ont été abattues dans leur champ. Ces assaillants ont détruit en même temps des maisons et emporté des produits des champs. D'après la société civile locale, un camion a affrété qui ramenait des vivres aux déplacés installés sur le site de Ro a été également pillé systématiquement par les assaillants et leurs dépendants. Lors de l'intervention des militaires des FARDC, 3 d'entre eux seraient morts, affirment des sources sécuritaires. À Bounia, le récit de Jean-Claude Lokidile.
La première embuscade est celle tendue au village Roulé, Douviré, Willy et Dendro. Des habitants partis chercher des vivres dans leurs champs ont été attaqués par ces hommes armés. 2 parmi ces personnes ont été abattus par balles. Avant de se retirer, ces miliciens ont enlevé les toitures de plusieurs maisons et emporté les produits de champs des victimes. À Dendro, ce sont 3 autres paysans qui ont été abattus, indiquent nos sources. Cette fois, sur l'axe Boulet-Trodro, un camion transportant de l'assistance aux déplacés de Ro a été complètement saccagé. D'après la société civile locale et des militaires des FADC qui escortaient ce véhicule sont morts. Des sources de sécurité parlent de 3 militaires tués. Le chauffeur du camion et son aide ont tous succombé à leurs blessures. Le porte-parole des opérations militaires des FADC en Ituri, qui ne confirmait pas encore ces informations, demande aux habitants de cette zone de ne pas trop s'écarter des périmètres sécurisés par les forces loyalistes. Cela, dit-il, pour ne pas tomber entre les mains de ces miliciens. Bounia, Jean-Claude, Loki, Dilley, Radio Okapi.
La RDC est en danger. Le peuple congolais devrait vaincre sa peur et lutter pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Déclaration faite par le président du Front de Libération Nationale du Congo lors d'un meeting populaire tenu ce dimanche à Limka dans la commune de Kalamuesi à Kinshasa. Eli Kapen de Kanyimbu affirme que le pays traverse actuellement une crise difficile, une période difficile suite au mauvais départ amorcé au lendemain de l'indépendance. D'où l'urgence de rectifier le tir, selon lui. Un reportage de Jacques-Yves Molima.
Dans son adresse, Eli Kapen de Kanyimbu lance un appel au peuple congolais pour ne pas se laisser distraire par ce qu'on appelle agression rwandaise. Les vrais commanditaires sont bien connus. Vous n'avez pas remarqué, ce sont les étrangers, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas balkaniser la RDC, il le fera comment? Ce sont les Blancs qui ont réussi, vous le savez, à diviser d'un côté le Soudan du Nord, de l'autre le Soudan du Sud. C'est ce que nous disons. Cela est totalement visible avec toutes les descentes des autorités étrangères dans la partie est de la RDC, a souligné Eli Kapend. Tous les étrangers qui viennent et disent soutenir les élections n'ont qu'une seule destination, l'est du pays. Dites-moi. Qui est ce président qui vient visiter le Congo central ou qui quitte? Pourquoi toujours l'Est? Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème?
Il y a quelque chose de mal.
D'où son appel à se dresser et à suivre la voie qu'il a tracée.
Après
ici, nous irons au Parlement pour discuter avec le Parlement réuni en congrès.
Sénateur, un point, un trait.
Et c'est pour que la transition qu'il réclame deviennent effectives.
Merci Jacques Yves Moulibin pour ces reportages. Et puis l'Union européenne apporte plus de 32 millions d'euros supplémentaires à l'action humanitaire à la RDC, annonce faite par le directeur général de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire opérationnelle qui a séjourné en Afrique du 27 au 29 avril. Dans un communiqué rendu public ce samedi à Kinshasa, l'Union européenne se déclare disposée à aider la RDC à relever les nombreux défis humanitaires. Explication de Lesho Alassa.
Lors de cette première visite en Afrique depuis sa prise des fonctions, le directeur général de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européenne, Maciej Popowski, a rencontré le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, auprès de qui il a souligné la vive préoccupation de l'Union européenne face à la détérioration de la situation humanitaire en RDC. Il a rappelé le soutien de l'Union européenne au pays et à sa population. Selon le communiqué de presse, ce soutien a été démontré par l'organisation d'un pont aérien humanitaire qui, avec l'apport de la France, a transporté 260 tonnes de fournitures essentielles pour la population vulnérable touchée par les violences dans l'est du pays. C'est notamment la nutrition, les soins de santé, l'eau et l'assainissement, les abris et la protection. Au cours d'une cérémonie marquant la fin du pont aérien humanitaire à Goma, au Nord Kivu, le directeur général Popowski a remercié tous les partenaires sur les terrains qui font parvenir les fournitures aux personnes qui en ont le plus besoin. Ce communiqué de presse rappelle que le financement de l'Union européenne à la RDC s'élève à 80 millions d'euros pour l'année 2023.
L'actualité, c'est aussi la reprise au Nord Kivu des travaux de construction de la nouvelle prison centrale de Goma, délocalisée sur les sites de Sake, une cité située à 30 km de la ville de Goma. Ce chantier a reçu hier samedi la visite de la ministre d'État de la Justice. Rose Mutombo a été accompagnée lors de ce déplacement de son collègue de l'industrie, Julien Paluku-Kaungia. Le compte-rendu de Bernard Danyangi.
Les travaux qui avaient été lancés le 16 juillet 2022 pour une durée d'une année ont connu un moment d'arrêt en raison des attaques des rebelles du 23 autour de la cité de Sake, fait remarquer la vice-première ministre, ministre de la Justice. Madame Rose Mutombo-Kese se réjouit de cette reprise.
Je suis contente des avancées des travaux, mais j'ai des inquiétudes. J'ai compris pourquoi ça a pris un peu du retard, du fait que la zone était insécurisée pendant quelques mois. Et que comme les travaux ont repris, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons inaugurer la première prison construite après l'indépendance pendant la règne du président Félix-Antoine Tshisekedi.
Rappelons que la nouvelle prison Munzenze, délocalisée à Sake, est construite sur un espace bâti de 5 hectares. Elle devrait avoir une capacité d'accueil de 3500 détenus contre celle de 150 détenus de l'actuel Munzenze. Ce chantier prévoit un espace de divertissement, cellules, dortoirs, lieux de culte, les blocs VIP et les bureaux administratifs. Goma, Bernard Dignangui, Radio Kapi.
Mobilisons-nous pour des réussites honnêtes et méritées de nos enfants. Débarrassons-nous au plus vite des pratiques honteuses et dégradantes qui ont longtemps terni l'image de notre sous-secteur. Appel lancé ce dimanche aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux parents et aux élèves par Tony Mwaba, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. D'autres précisions avec vous, Paul Matendo.
Dans son message, Tony Mwaba parle des écueils et des défis susceptibles de briser les efforts du gouvernement et de ternir l'image du système éducatif. Il pense particulièrement au retour de la pratique de cours de récupération monnaie et de l'internement clandestin des élèves dans ce qu'ils appellent maquis, des lieux, selon le ministre, qui servent plus à autre chose qu'aux études proprement parlées. Ces pratiques ne doivent plus revenir, ce qui l'amène à placer cette année scolaire sous les signes du réveil de l'inspection scolaire afin de lutter contre ces antivaleurs, poursuit-il. Le ministre de l'EPST est revenu sur certaines réalisations, dont les plus importantes, selon lui, la suppression de tous les frais de scolarité que payaient les parents d'élèves au niveau primaire, la prise en charge par les trésors publics de 266 220 nouvelles unités. Tony Mwaba n'a pas oublié de rendre hommage aux élèves des territoires sous occupation et du lycée Mwanga de Kolwezi, touché par un incendie qui a emporté l'élève Glodine Tanga.
Paul Matendo sur Radio Okapi. Et puis à Kwamout, le directeur de l'école primaire de Basila exprime son ras-le-bol suite à l'insécurité qui sévit ces jours-ci dans ce territoire de la province de Maïndombé. Alain Mansia Kilala appelle le gouvernement central à restaurer au plus vite la paix à Kwamout afin de faciliter la reprise des activités scolaires. Il est au micro d'Irène Boma.
Je suis directeur de l'EPM Mossomba non conventionné à Bissiala. Je suis victime là. Ma maison a été incendiée et mon bureau était incendié. On a aussi fait écrouler le bâtiment par les assaillants là. Je suis vraiment mécontent parce que souvent on fait le défilé avec nos enfants. On cherche comment festoyer la journée du 30 avril. Mais actuellement, vu les assaillants, nous ne sommes plus là où nous travaillons dans nos sites de travail. On est maintenant réfugiés à Bandundu. Donc pour nous, la journée vraiment s'est passée comme ça. Nous sommes très mécontents. Là. Parfois, on organise le fait, la population vient au niveau de l'école voir comment les enfants passent leur jeu, le football, les récitations, les récitals. Maintenant, nous ne sommes plus dans le travail. Le travail me manque parce que chaque matin, je suis à l'école pour le travail, je surveille les enfants, on est en mouvement, on enseigne les enfants. Pour le moment, je chôme. Je souhaite être dans le travail que de traîner comme ça.
Vous avez déjà totalisé combien d'années en tant qu'enseignant?
Dans l'espèce T, c'est 23 ans. Mais à la direction scolaire, c'est 13 ans. Je suis enseignant assis directeur de l'école primaire. Abissiala toujours. Alors nous demandons que l'État puisse nous aider afin que la paix règne pour que l'année prochaine, nous puissions reprendre nos activités scolaires.
Pendant ces temps, dans la province du Maniema, le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo fait remarquer que les enseignants sont payés actuellement en monnaie de singe. Maoulou Mwanda Mukute le dit à Florence Kizalunga.
L'enseignant, c'est le forgeron des âmes, le forgeron des enfants qui ne savaient absolument rien, qui venaient de la maison sans rien en tête, mais arrivé à l'école, il a un bagage intellectuel qui lui permet de prendre conscience de sa destinée et de développer son pays. Parce que c'est au niveau de l'enseignement où on forme tous les cadres qui sont utiles au développement d'une nation. D'où proviennent les ingénieurs, les médecins, les autres, ainsi de suite. On ne peut pas devenir président de la République ou un premier ministre ou un gouverneur sans passer par le plan scolaire. C'est-à-dire, c'est un service très important, très capital dans toutes les nations du monde. Parce qu'aucune nation du monde ne s'est développée sans une éducation de qualité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 30 avril, une journée dédiée à l'enseignement national. Mais par rapport à l'utilité que devait avoir un enseignant, aujourd'hui, l'enseignant fait dans la méditation, madame. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se demander tout ce que je me donne comme sacrifice pour les biens de ma nation. Donc, je reçois en contrepartie un paiement dérisoire, un paiement en monnaie de singe, si bien que les salaires que reçoit l'enseignant aujourd'hui ne lui permet plus de nouer même pas les deux bouts de la journée, je n'ai pas dit moi, de la journée.
Partons maintenant pour Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, où des barricades ont été érigées ces jours-ci sur plusieurs artères de la ville entre 12h et 14h pour contrôler le paiement du jeton de 1000 francs congolais à payer par les motocyclistes. Cette taxe a été instaurée depuis bientôt 2 mois et demi par le gouvernement provincial pour la construction de la province. Cette taxe est exemptée plutôt par certains motocyclistes non en règle d'autres taxes. Pour en parler, retrouvons en Mbujimayi Esther Ndalafina.
Chaque jour de la semaine, de 12h à 14h, sauf dimanche, des barricades sont érigées sur les grandes artères de la ville de Mbujimayi. Les agents de la Direction Générale des Recettes du Kasaï Oriental, ainsi que quelques policiers, sont déployés pour effectuer le contrôle des jetons qui représentent la taxe de reconstruction auprès des motocyclistes. Il faut exhiber les jetons avant de franchir la barrière. Certains motocyclistes estiment que cette pratique les favorise. D'autres, par contre, approuve cette pratique. Hier, j'ai acheté 2 litres d'essence. J'ai bossé dur toute la journée jusqu'à 21 heures. Je me suis retrouvé avec 25 000. J'ai payé la dette d'essence de 12 000 francs, 15 000 pour le propriétaire de la moto. Je n'ai pas versé la totalité. J'ai encore une dette à payer. Les enfants n'ont pas mangé. Voilà pourquoi je n'apprécie pas ça. Certains motocyclistes utilisent déjà les chemins détournés pour échapper à cette règle. Signalons que cette pratique de paiement de jetons a été instauré pour pousser les motocyclistes à payer les documents pour la circulation de leurs engins roulants. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un premier avion chargé de 8 tonnes de matériel chirurgical a atterri ce dimanche après-midi au Soudan où il doit permettre ainsi de soigner 1500 patients dans le pays où la plupart des hôpitaux sont actuellement hors service en raison des affrontements selon le comité international de la Croix-Rouge. L'avion à bord duquel se trouve également du personnel humanitaire a décollé d'Amman et a atterri ce dimanche à Port-Soudan, ville côtière située à plus ou moins 850 km à l'est de Khartoum, la capitale, où se concentrent actuellement des combats. Pendant ces temps, le Royaume-Uni a mis fin à l'évacuation de ses citoyens du Soudan. Le dernier vol a quitté Khartoum cette nuit. C'est la fin donc d'une opération catastrophique pour Londres. Et puis en Inde, 11 personnes sont mortes ce dimanche dans la matinée à la suite d'une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État septentrional du Punjab. 4 personnes ont en outre été hospitalisées à la suite de cet accident selon un responsable local qui a requis l'anonymat. Il assure qu'une opération de sauvetage est en cours.
L'invité.
Notre invité, c'est le président de l'Association culturelle pour le développement qui regroupe en son sein 21 communautés de la province de l'Ituri. Janvier Bin Ekwale parle de la mission d'inspection qu'il a effectuée la semaine dernière sur la crise humanitaire et sécuritaire qui s'est vue ce jour-ci dans le territoire de Mambasa. Il s'entretient à ces sujets avec Ezekiel Mouzalia.
Janvier Bin Ekwale, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Vous venez d'une mission de travail dans le territoire de Mambasa. Pourquoi les choix de Mambasa et quel constat avez-vous effectué sur place?
Notre choix d'une mission dans ce territoire de Mambasa, c'était aller palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire de la population qui a fui l'exaction des ADF Nalu et les Mai Mai dans la chefferie précisément de Babila Bakwanza où tous les groupements est vidé de sa population. Notre constat, c'est un constat très très amer parce que la population vit dans des conditions très difficiles, raison pour laquelle nous, comme l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, nous devons donner des informations qui sont fiables à nos autorités et nous devons alerter nos autorités pour que ces autorités puissent prendre des dispositions pour protéger la population de la chefferie de Babila.
Vous n'êtes pas les seuls à effectuer ce genre de visites dans le territoire de Mambasa et à remonter ces constats. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme qui les font également. Quelle a été la particularité de votre mission?
C'était d'aller voir la situation sur terrain. Parce que oui, chacun a ses informations, mais nous, nous sommes à côté de la population. Nous devons informer les autorités la souffrance de la population. Nous devons donner des vraies informations pour que nos autorités puissent prendre des dispositions pratiques. Or, malheureusement, quand nous alertons, les autorités sécuritaires n'arrivent pas à réagir trop vite. Et souvent, il y a des dégâts qui arrivent, les gens meurent comme ça, et souvent, les interventions viennent en retard au moment où les alertes ont été faites à tous les niveaux. Et souvent, les autorités sont saisies des informations, mais le constat amer est que souvent les interventions sont toujours en retard. Voilà un peu notre particularité. C'est pour palper du doigt la situation sécuritaire, c'est pour voir comment la population est en train de souffrir. Il n'y a pas des assistances humanitaires, mais il n'y a pas des assistances alimentaires et médicales. Tout ça, ça pose problème.
Votre structure encadre les 21 communautés de l'Ituri. Est-ce que vous aviez eu le temps de vous asseoir, d'échanger, de discuter avec les notables du milieu? Parce que la crise qui est à Mambasa, les problèmes sécuritaires qui est à Mambasa seraient entretenus par les communautés locales.
Notre part de responsabilité, c'est d'abord donner des informations à nos autorités. Notre responsabilité, c'est de sensibiliser la population pour que la population soit ensemble, collabore ensemble avec les services de sécurité. Notre contribution, c'est aussi plaider auprès des humanitaires, auprès des autorités. Or, la vie en territoire de Mambasa, c'est très difficile parce que nous demandons à nos autorités, à tous ceux-là qui nous suivent, de venir assister cette population qui est souffrante en territoire de Mambasa.
Vous êtes reconnaissant que le gouvernement mène beaucoup d'efforts pour pousser les groupes armés à déposer les armes et permettre une bonne prise en charge sur le plan humanitaire. Vous, maintenant, au sein de l'UNADI, quelle est votre part des responsabilités?
Nous félicitons l'administrateur qui fait l'intérim de son titulaire. Mambasa Centre est bien protégé, sauf l'intérieur du territoire, c'est là où il y a des incursions. C'est là qui en est aujourd'hui la chefferie de Babila Bakwanza et le territoire de Mambasa en général. Ce sont les ADF et les Maïmaï qui viennent du Nord Kivu parce que au niveau de Mambasa, il n'y a pas une groupe armée formée par les autochtones du territoire de Mambasa, il n'y en a pas. On a vu les notables de Babila Bakwanza sur place, ils ont donné leur doléance, ils ont pleuré parce que la seule solution c'est notre gouvernement, c'est notre service de sécurité, c'est notre armée pour traquer tout cela qui endeuille aujourd'hui la population de Babila Bakwanza en particulier et de Mambasa en général.
Janvier Bin Ekwale, merci.
C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le président de l'Association culturelle pour le développement de l'Ituri, une association qui regroupe en son sein 21 communautés. Janvier Bin Ekwale était interviewé par Ezekiel Mouzalia. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Merci à Alain Ngoumouchiche qui m'a accompagné.